Bonne journée.
Voici La Politique aujourd'hui avec Bernard Drainville au 95.7 Kick.
Bon lundi, Bernard.
Salut, Dominique.
Écoute, point de presse à 17h aujourd'hui. Et quand c'est à 17h, comme disait notre collègue à Montréal, Paul Arcand, c'est jamais des bonnes nouvelles.
Non, monsieur, ça ne sera pas des bonnes nouvelles parce que le défi 28 jours qu'il nous a lancé, le premier ministre, prend fin aujourd'hui. Ça s'est fait, il nous a lancé ça le 28 septembre, il nous a demandé de réduire nos contacts sociaux le 28 septembre dernier. Ça fait exactement 28 jours aujourd'hui. Fait que là, il va nous annoncer la suite aujourd'hui à 17h. Donc, est-ce que ce sera un défi 35 jours jusqu'à la fin novembre ou est-ce qu'il va se rendre jusqu'à Noël?
Soyons honnêtes, Bernard, c'est un défi jusqu'au vaccin. Point. Tu sais, je veux dire, moi, honnêtement, je le dis depuis le début, puis même quand il avait annoncé ce défi-là, je disais aux gens... Là, c'est un sprint vers le vaccin, là, parce que la prochaine accalmie, à part l'été prochain, là, il n'y en aura pas d'autre.
Non, tu as raison, mais je pense pas qu'il va nous dire ça aujourd'hui.
Non, mais c'est ça la vérité. La vérité, c'est ça,
là, mais tu peux pas dire aux gens... comment je te dirais bien ça? Pour que les gens adhèrent, il faut que tu leur donnes un échéancier précis. Tu sais, 28 jours, on savait là, jusqu'où ça nous menait. Grosso modo, ça nous menait jusqu'à la fin octobre. Là, il faut qu'ils nous donnent un autre défi. Puis là, on va voir comment est-ce qu'il va présenter ça. Mais il ne peut pas dire, Martin, on se donne un défi jusqu'à l'arrivée du vaccin. On ne sait même pas quand est-ce que le vaccin va arriver. Tu comprends? Il doit gérer son opinion publique. Puis il doit nous faire adhérer aux mesures qu'il va annoncer.
Mais je trouve ça pire, des fausses espoirs. Moi. Tant qu'à ça, genre, je préférerais me faire dire, regarde, on en a jusqu'au vaccin. Le vaccin, c'est peut-être mi-21.
Mais ça a marché. Ça a marché, Martin. Honnêtement, ça a fonctionné. Le défi qu'il nous a donné, on l'a respecté. On a embarqué dans son affaire. La preuve en est, c'est qu'on a réussi à stabiliser le nombre de cas autour de 1000.
Mais combien l'ont respecté parce qu'ils pensaient qu'il allait avoir un anane, puis là, ils n'en auront pas de nanane?
Oh, ça, je ne sais pas, par contre. Moi, je pense que la majorité des gens, ils savent qu'on en a jusqu'au vaccin, Martin. Convaincu de ça. Les gens sont pas caves, là. Ils savent bien là, qu'on en a encore pour plusieurs mois, là. Ils espèrent juste que c'est pas plusieurs années. Tu comprends? Les gens espèrent juste qu'au bout de la deuxième vague, il va y avoir un vaccin, qu'on soit propre pour vivre une troisième puis une quatrième vague. En tout cas, regardez, surveillez ça. Mais quand on se compare, on se console. Moi, dire, là, tu regardes une population équivalente comme le Québec, équivalente au Québec, c'est-à-dire la Suisse, sont 8,5 millions comme nous autres. Eux autres, ils sont rendus à 6600 cas. Nous autres, on est autour de 1000 cas là, depuis quoi, là, une dizaine de jours à peu près. Ça tourne autour de 1000. Eux autres, là, 6600. Puis les Suisses, vous savez comment ils sont, les Suisses. Là, c'est organisé, là, ça respecte les règles, ça respecte l'autorité, puis ils l'ont échappé en Suisse. En France, ils sont rendus à 52 000 cas en fin de semaine. 52 000 nouveaux cas dans une journée. Fait qu'on s'entend-tu qu'on veut pas que ça nous arrive, là, une affaire de même? Là? Fait qu'on n'aura pas le choix que de continuer à faire des efforts puis à respecter les règles. Mais moi, je vais vous dire ce qui me trouble, les gars. Je sais pas si vous avez vu les résultats du sondage CROP en fin de semaine, là. Oui. Ça, c'est troublant. Tu as 20 % des Québécois qui adhèrent à l'une ou l'autre des théories du complot. Tu as 25 % des Québécois qui attends un peu, c'est ça. 25 % des Québécois qui affirment être totalement ou en partie d'accord avec les thèses conspirationnistes de QAnon à l'effet qu'il existe un État profond, un deep state qui est contrôlé par des élitistes qui sont satanistes et pédophiles. 25 % des Québécois.
Hey,
qui croient là-dedans d'une manière ou d'une autre.
Ouais, mais là, c'est débile. C'est la semaine de l'Halloween, là. Fait qu'on s'est fait plaisir un peu. Là.
Ouais, moi, je vais... Non, mais regarde, Martin... Ça fait un bout qu'on le sait qu'il y a à peu près 20 % de nos concitoyens là, qui, d'une manière ou d'une autre, contestent l'ampleur de la pandémie, contestent la dangerosité du virus, contestent les mesures mises en place. C'est à peu près un Québécois sur cinq. Là. C'est pas la première fois qu'on entend ce chiffre-là. C'est juste que moi, ça me saute au visage. Là, c'est encore plus précis. Là. Ils adhèrent à des thèses conspirationnistes. Là. Écoute, c'est un jeune sur trois. Un jeune sur trois qui adhère d'une manière ou d'une autre aux thèses conspirationnistes. Les jeunes, je vous parle des 18-34 ans. Fait que, pourquoi je vous parle de ça? D'abord parce que je trouve ça, mettons que
C'est beaucoup.
Ça fesse, on va dire ça de même. Puis deuxièmement, ce que ça veut dire, c'est que vous avez à peu près un Québécois sur cinq, là, qui ne se reconnaît dans aucun parti politique actuellement à l'Assemblée nationale, parce que les quatre partis qui sont à l'Assemblée ont tous adhéré à l'urgence sanitaire. Ils reconnaissent l'existence du virus, l'état de pandémie. Je veux dire, ils critiquent la manière, ils critiquent les décisions, mais il y a un consensus politique des quatre principaux partis à l'effet qu'il y a une pandémie puis qu'elle nous menace. Fait que ça laisse 20 % des Québécois qui cherchent un relais politique. Et là, ce que je vous dis, c'est surveiller Éric Duhaime. Oh. Éric Duhaime, oui, mais... Ah oui, non, puis c'est sérieux ce
Parti
que je vous
conservateur.
Dis.
Là,
exactement. Ouais. Parti conservateur du Québec, qui a jamais levé, qui a fait 1,5 % des voix aux dernières élections. Le chef Adrien Arcan a démissionné il y a quelques jours. Adrien Pouliot, dis-je. Mon Dieu, quel lapsus. Adrien Pouliot, qui a démissionné il y a quelques jours. Et là, il y a quelqu'un, enfin un chroniqueur de Radio X à Québec, qui a lancé l'idée que ça devrait être Duhaime. Et ça a pris comme un feu de broussailles. Je le tiens de très bonne source, là. En deux jours, tu as 2000 personnes qui sont allées acheter le carte du Parti conservateur du Québec, 15$ la carte. Le nombre de membres quadruplé, donc en deux jours. Et tout ça, ça s'inscrit dans un mouvement « Vas-y, Éric ». Puis Duhaime, moi, j'ai co-animé avec lui.
Ah, tu le connais?
Ben, je le connais très bien. Puis je vais te dire, c'est un redoutable polémiste. C'est un gars qui est capable d'argumenter, qui a un bon sens de l'humour, il a un sens de l'humour décapant. Il peut être drôle comme un singe, Éric, là, je veux dire. Et je peux vous dire une affaire. S'il se lance, puis moi, dans son entourage, on m'a dit que c'est sérieux. Sa réflexion est sérieuse. Il se donne 28 jours pour consulter. Il fait des appels présentement. Il n'y a pas de problème d'argent. S'il y va, il va se rendre à l'élection de 2022. Puis moi, je vous le dis, là, c'est pas juste le 20 % de Québécois dont je vous parle là, qui pourrait adhérer à un discours comme celui qu'Éric Duhaime pourrait tenir, parce qu'Éric Duhaime fait partie de ceux qui ont contesté ouvertement l'ampleur des mesures, qui jugent que ça va trop loin. Je sais pas si vous avez lu le texte qu'il a écrit, là. Si vous pensez que c'est un fumiste qui est pas... articulé. Allez lire le texte qui a fait paraître dans la presse, qui a été publié dans la presse, vers de nouveaux clivages, dans lequel il dit que la population québécoise est divisée sur plusieurs questions. Il y a un clivage entre ceux dont l'emploi est garanti et ceux dont l'emploi est menacé ou même a disparu. Il y a un clivage entre ceux qui attendent un traitement à l'hôpital pour un cancer ou qui attendent d'être opérés d'un côté, puis il y a les autres qu'on veut protéger de la COVID. C'est un cliveur, Éric Duhaime. C'est un gars qui est capable de cliver, qui est capable de prendre une société sur certains enjeux puis d'opposer les différents courants, les différents groupes. Puis évidemment, lui, son objectif, ce serait d'abord de parler aux anciens adéquistes qui étaient ouverts notamment à plus de privés en santé. Fait qu'il va pas juste mener sa bataille sur les mesures COVID, il va aussi dire que le système de santé a lamentablement échoué dans cette crise-là et que c'est une bonne raison pour le réformer puis introduire plus de privés dans le secteur de la santé. Tu comprends?
Si tu le compares, par exemple, à Françoise David et Amir Kadir quand ils ont lancé Québec solidaire, quand tu le compares à Mario Dumont quand il a lancé l'ADQ, est-ce que tu as l'impression que pour lui, il y a une fast track qui pourrait peut-être être présent à l'Assemblée nationale plus vite qu'on le pense?
Je pense que oui, moi. Moi, je pense que... Si en 2000... Regardez bien, là. S'il se lance, d'abord, c'est pas fait, mais c'est sérieux. Sa réflexion est sérieuse. Je le tiens de très bonne source. S'il se lance, il peut faire du dommage à court terme. Le problème d'Éric Duhaime, ça a toujours été qu'il finit par faire des dérapes. Il finit par faire un commentaire, puis qu'il met dans l'eau chaude, puis qu'il crée de la controverse, puis qu'il finit par le mettre dans le trouble. Mais, tu sais, je regarde plus au sud, là. Je compare pas Duhaime avec Trump, là, mais je compare le courant d'idées, là, le courant populaire. Là. Une fois que tu as du monde qui ont adhéré à ce type d'idées, tu as beau leur dire n'importe quoi, le gars, il a... Tu sais, dans le cas de Trump, là, il a été accusé de tout. Là, mentir, frauder l'impôt, agresser des femmes. Je veux dire, le groupe de personnes qui l'ont suivi le suivent encore aujourd'hui. Et je pense que dans le cas de Duhaime, tu aurais un noyau d'électeurs assez important au début Puis là, la question est de savoir est-ce que ce noyau-là durerait dans le temps, mais qu'il l'appuierait. Et il irait chercher ce noyau-là dans quel TAL? Dans l'ancienne TAL de l'ADQ, justement, qui était favorable à plus de privés en santé. Et puis qui se retrouve pas toujours dans le gouvernement de la CAQ, parce que le gouvernement de la CAQ, c'est un gouvernement centriste depuis le début. Il y a du monde à droite, là, du monde qui vote, mettons, pour les députés conservateurs dans la région de Québec. Là. Il y en a là-dedans là, qui s'ennuient de l'ADQ là, et qui pourraient rallier un parti dirigé par Duhem. Encore une fois, je ne vous prédis pas là, qu'il va faire un résultat d'enfer, mais ce que je vous dis, c'est qu'il pourrait faire du dommage. Et s'il va chercher, mettons, juste 10 % de l'électorat dans la grande région de Québec, c'est du 10 % qu'il enlève à la CAQ. On s'entend là-dessus, là?
Absolument. Oh, oui, c'est clair.
Tu sais? Bon. Puis moi, je vais rajouter une chose à ça. Moi, j'ai toujours pensé, puis si je ne le pensais pas, je ne vous en parlerai pas aujourd'hui. Mais j'ai toujours pensé qu'au Québec, il y avait un 5 à 10 % de personnes qui étaient vraiment ouvertes à des vraies idées de droite. C'est-à-dire, notamment, plus de privés en santé. Moins d'impôts à payer, un État moins lourd, moins de bureaucratie. J'ai toujours pensé qu'il y avait un bassin d'électeurs qui était ouvert à ces idées-là. Et un chef comme Duhem, qui a du bagou, qui est capable d'argumenter, qui est capable d'être percutant dans des entrevues, qui est capable de lancer des lignes assassines, honnêtement, il pourrait aller chercher une partie de cet électorat-là. Encore une fois, je ne vous dis pas que ça marcherait, parce qu'en bout de ligne, il y a la mauvaise habitude de se tirer dans le pied, Éric Duhem. Alors, je ne suis pas sûr qu'il se rendrait jusqu'en 2022, mais ce que je vous dis, c'est qu'il pourrait... À court terme, en tout cas, là, s'il y allait, là, ça pourrait lever son affaire. Il pourrait aller chercher plus que le 1,5 % très certainement que le Parti conservateur a eu aux dernières élections au Québec. Là.
Absolument, t'sais? C'est sûr.
Je vous soumets ça là, parce que j'ai hésité, moi, avant de faire cette chronique-là, parce que je me suis dit, tu sais, le monde, c'est facile de dire, « Ah, oh, Duhem, franchement, c'est une joke, puis ça marchera pas, puis tout ça. » Puis moi, ça fait un... Moi, je pense pas que c'est une joke. Je vous le dis, là. Ouais. Je pense pas que c'est une joke.
Je te donne une autre hypothèse, parce qu'il est chroniqueur à une autre station, d'ailleurs, Éric Duhem, qui était en vente jusqu'à tout récemment, parce qu'il faisait partie du même groupe que nous avec Radio d'Or, qui essayait de trouver un acheteur pour cette station de radio-là. Mmh. Et comme par hasard, l'ex-chef du Parti conservateur, Adrien Pouliot, vient d'une famille qui a été propriétaire de CTV et de nombreux médias dans sa vie. Il y a une rumeur qui a circulé voulant que lui-même achète ce média-là.
Ben, honnêtement...
T'aurais le diffuseur connais... pour le parti.
Puis Radio X, disons-le, là, pour les gens qui ne le savent pas, c'est une radio qui, depuis le début de la pandémie, conteste ouvertement l'ampleur des mesures, la sévérité des mesures. Alors, ça y donne un formidable porte-voix parce qu'il est chroniqueur sur l'antenne de Radio X actuellement, Éric Duhem.
Absolument.
Moi, la réserve que j'avais, le doute que j'avais, c'était est-ce que ce gars-là fait ça pour, dans le fond, mousser les codes d'écoute de la radio, mousser les codes d'écoute de sa chronique?
Alors, je pense qu'il est sincère.
Je ne l'exclus pas, je vous le dis, je ne l'exclus pas, mais j'ai fait des appels hier et puis sa réflexion dépasse le stunt publicitaire. Il est vraiment sincère, il fait des appels présentement, puis il essaye vraiment de... Il teste ses appuis, puis il voit l'engouement que ça suscite chez certaines personnes. Là.
Mais tu parles effectivement de cette histoire d'Éric Duhem que souvent le il se tire dans le pied souvent. Mais l'autre problème qu'il peut y avoir avec un mouvement comme celui-là, là, c'est que, tu sais, je pense dans la région ici ou partout ailleurs au Québec, il va t'avoir une gang de cocos qui se présente dans les débuts de parti. Hein. Ah, on l'a vu chez Québec solidaire, on l'a vu à l'ADQ au début. Contrôler le message de tes cocos, ça aussi, ça fait mal. Parce que si toi, t'as du bagou, puis toi, t'es brillant, puis toi, tu passes bien, c'est pas le cas de tous tes petits cocos qui vont se joindre à toi.
Exactement. On se souvient là, des candidats. Il y en avait un qui était assis à la bolle de toilette.
Oui.
Tu sais, je veux dire, bon, c'était pas fort, là. Bon, mais je conclue là-dessus, les gars. Je conclue sur le fait qu'il ne faut pas regarder ça de haut. On a tendance, des fois, dans les médias, à se complaire un peu, puis à regarder certains courants, puis à dire, voyons donc, c'est pas sérieux. Moi, je vous le dis, là, t'as 20 % du monde au Québec, là, grosso modo, là. 20 % du monde au Québec, là, qui se reconnaissent pas dans les quatre partis actuels à l'Assemblée nationale. Puis la nature a horreur du vide, la politique aussi. Puis un gars habile comme Duhaime pourrait faire du dommage. Je ne sais pas s'il va avoir le souffle pour durer. Ça, c'est une autre affaire. Mais s'il décide de se lancer, puis s'il est sérieux, ça pourrait lever. Il pourrait y avoir un certain appui dans la population, dans grandes régions de Québec au départ, c'est vrai, mais voyons après ça jusqu'où ça pourrait aller. Mais tu sais, s'il va chercher un 5 % un 7 % dans les régions, ben c'est du vote qui enlève à la CAQ. Moi, je peux vous dire une affaire, les partis qui s'opposent à la CAQ, eux autres, ils ne demandent pas mieux que Duhaime se lance, hein?
Absolument. Ça, c'est...
Ça, c'est clair.
Parlant d'opposition à la CAQ, on termine avec ça. Paul Saint-Pierre Plamondon, PSPP, gagnant à vie.
Écoute, 120 000 piastres. Ça a été annoncé vendredi. Bon, un salaire, donc, qui lui sera versé comme chef du Parti québécois. Là, ça paraît mal, mettons. Ça a l'air fou, parce que il se donne un salaire de 120 000 quelques heures après avoir fait des mises à pied à l'aile parlementaire. Puis là, il n'y a pas de lien entre les deux, là. Il n'y a pas de lien formel entre les deux, là. Mais vous reconnaîtrez avec moi, là, qu'un parti affaibli comme le PQ, pas d'argent, beaucoup moins de membres qu'auparavant, qui donne à son chef un salaire de 120 000, là, puis le gars, il faut qu'il vive. Je reconnais ça, là. Il faut qu'il vive. Il y a des enfants, là, mais 120 000 par année? Avez-vous réagi comme moi? Mais ben non, député gagne même pas 120 000. Puis le salaire moyen au Québec est autour de, mettons, 45 000. Puis tu sais, là, au PQ, ils te disent, ah ben là, Boisclair, il en recevait un salaire, puis c'était 120 000. Ben oui, mais Boisclair, là, il y avait au-dessus de 100 000 membres dans le temps de Boisclair. Mmh. Après la course au leadership de Boisclair, tu avais au-dessus de 100 000 membres. C'est un parti qui n'avait pas de problème financier, là. En tout cas, pas de l'ampleur que ceux que le PQ a présentement. Et au PQ, on me dit, pas juste Boisclair, Parizeau aussi recevait un salaire. Sauf que moi, il y a quelqu'un qui m'a appelé dans la dernière minute qui m'a dit, c'est pas vrai. Parizeau ne recevait pas de salaire. En fait, je vais vous le dire, c'est qui? C'est Jean Royer. Il m'a permis de le nommer.
Okay.
Jean Royer, l'ancien proche conseiller, peut-être le plus proche de tous les proches conseillers de Jacques Parizeau. Jean Royer, qui a été son directeur de cabinet, qui a été son principal stratège, m'a appelé pour me dire, Bernard, c'est pas vrai que le Parti québécois a donné un salaire à Jacques Parizeau. J'ai dit, Jean, tu me permets-tu de le dire ces ondes? Il me dit oui. Vous êtes le premier à le savoir parce que j'ai fait ma chronique dans l'émission de Paul. Et puis, il m'a entendu dans l'émission de Paul Arcand. Et il m'a appelé entre-temps. Puis là, je viens vous le dire, là. Jean Royer dit, garde, dis-le ces ondes, c'est pas vrai. Mais tout ça pour vous dire que... Puis tu sais, l'autre affaire qu'il faut que vous sachiez, c'est que le PQ fait des mises à pied à l'aile parlementaire. Au même moment, le chef se vote un salaire de 120 000. Et au même moment, il lance une campagne de financement, un blitz de financement, pour demander au comté de ramasser de l'argent.
Ah oui.
Ouais. Fait que tu sais, je peux-tu dire qu'il y a des péquistes qui... j'ai encore des péquistes qui me parlent, hein, comprends-tu?
Ouais.
Mettons qu'il y en a qui ont de la misère à l'avaler un petit peu. Là. Ils disent, hey, là, 120 000, c'est déjà beaucoup. Et puis là, il nous demande, dans le fond, de ramasser de l'argent pour payer son salaire. C'est ça qu'il veut? Tu comprends?
Oh,
oui. Vous comprenez là, le problème que ça pose? Moi, je pense que c'est beaucoup, beaucoup un problème au niveau de l'image. Le gars, il arrive, c'est un nouveau chef.
Il n'est pas élu.
Un nouveau chef, il n'est pas élu. Puis là, il faut qu'il se fasse aimer. Puis 120 000, là...
C'est beaucoup. On va se le dire, je comprends qu'il y a eu un salaire, mais là...
Je trouve ça beaucoup. Puis, tu sais, je suis pas en train de dire qu'il devrait pas y verser de salaire. Ce n'est pas ça que je dis, là. Mais 120 000, moi, je trouve ça démesuré, compte tenu de l'état du membership. Écoute, ils sont rendus... Dans le temps de Parizeau, tu avais 300 000 membres. Après la course au leadership de Boisclair, tu avais au-dessus de 100 000 membres. Là, tu es à 35 000 membres. Tu es un parti qui a des difficultés financières importantes. Puis tu donnes 120 000 piastres à ton chef. Ça va chicaguener, mes amis. Merci. Ça va chicaguener dans les chaumières péquistes. En tout cas, dans certaines chaumières péquistes, je n'en doute pas une seconde, ça a déjà commencé.
Merci beaucoup, mon cher Bernard.
Salut tout le monde.
Salut, bye. On se reparle jeudi. Bernard Drainville, 8h40.
Le show du matin. On revient tout de suite après la pause. 95.7 Kick. Saguenay.